Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Pourquoi un si long silence ? Je n'avais tout simplement plus aucune envie de fouiller dans le passé pour le rapprocher de notre époque. Les politiques nationales et internationales sont venues à bout de ma patience. Le génocide du peuple palestinien devant un monde qui reste impassible, des gouvernants dont la plupart soutiennent Israël et qui viennent encore pleurer sur 39-45 et la Shoah, des injustices devenues insupportables, une éducation nationale en fin de vie, des lois plus iniques les unes que les autres, une arrogance insoutenable de la part des politiciens, des mensonges de la part de l'État, de ses laquais, les journalistes, mensonges plus ignobles les uns que les autres, et j'en passe. Alors je laisse ce monde et je retourne dans d'autres siècles et d'autres mœurs. Aujourd'hui, je reviens avec des anecdotes parisiennes du 19e siècle qui appartiennent évidemment à une autre époque, je dirais même à un autre monde. Mais malgré tout, l'on ne peut s'empêcher de faire des rapprochements avec notre société. Voici deux petites anecdotes extraites de Paris oublié de Charles Virmètre. Ces anecdotes concernent une prison, la prison des Madelonnettes, qui fut démolie en 1866. On entrait dans la prison par une porte massive, en chêne, solidement soutenue par deux énormes piliers en pierre de taille. La porte cochère était en retrait de la rue et formait une sorte de quart de cercle. De chaque côté, il y avait deux bancs de pierre sur lesquels s'asseyaient les pauvres ou les amis des prisonniers, les jours consacrés à la visite. La grande porte ne s'ouvrait que pour laisser entrer ou sortir le panier à salade. À gauche se trouvait une porte basse munie d'un judas et derrière laquelle se tenait un guichetier. Une fois cette porte franchie, on se trouvait dans la cour des prévenus, la seule pavée. Elle était encadrée sur toutes les faces par des bâtiments élevés qui portaient leur caractère d'origine, le XVIIe siècle. Les pierres de taille se détachaient sur un fond de briques brunies et écaillées par le temps. L'encadrement était complété par un mur de 20 pieds de hauteur. Au rez-de-chaussée du bâtiment, mais de deux côtés seulement, régnaient des arcades semblables à celles de la place royale où les prisonniers se réfugiaient quand il pleuvait. Le milieu de la cour était occupé par une fontaine à réservoir supérieur dont l'eau retombait dans une large vasque. Autour de cette fontaine, quelques maigres arbustes, jaunes, étiques, végétaient misérablement. Les Madelonnettes étaient la prison la plus insalubre de Paris. En revanche, elle était toujours la plus pleine. Des prisonniers se plaignaient au commissaire Marinot de manquer d'air. « Patience, mes amis, leur répondait-il. Vous serez bientôt dans de vastes prisons. Ici, vous êtes dans l'antichambre. » Et bientôt, en 2028, les prisonniers pourront respirer à plein poumon dans la nouvelle prison qui sera construite en pleine jungle de Guyane. Certainement en souvenir du bon vieux temps du bagne. Apparemment, la surpopulation était déjà un problème. Ce sont deux anecdotes liées à cette prison qui ont attiré mon attention. La première se passe en 1793, pendant la Révolution française, sous la Terreur, qui, au nom de la liberté, fit plus de morts en 2 ans que l'Inquisition pendant tout le Moyen-Âge. Les guillotinades de la Révolution faussèrent la cervelle de ce pauvre Fréville. Dans sa folie, il se croyait condamné à mort par les législateurs du jour. « J'arrivais au pied de l'échafaud, racontait-il, les mains liées derrière le dos. « Où vas-tu ? » me demanda le bourreau. « Vous le voyez, mais c'est une cruauté de... »« Pas de paroles inutiles ! Où vas-tu ? » Rejoindre mes compagnons d'infortune, prier au ciel pour ma famille. « Tout ça, c'est bel et bon, mais on ne passe pas. »« Comment ? » ?»« Sans doute, on ne passe pas. As-tu ton numéro ?»« Mon numéro ? » Mais oui, ton numéro est-il entêté qui nous a foutu un condamné comme celui-là? Tu crois donc qu'on se fait guillotiner comme ça, toi? Voyons ton numéro. Pardon, monsieur, j'ignorais l'usage, je n'ai pas de numéro. Cherche, c'est bientôt dit. Cherche, mais... Va-t'en chercher ton numéro, foutu bêta qui vient se faire couper le cou sans avoir son numéro. Doit-on rire ou pleurer? Avec le temps, la Révolution française perd, pour moi, son aura. Aura que l'enseignement français entretient depuis 250 ans.
Le député Guillotin, dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger les corps français de tous les gens à projet. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine, ok, c'est la guillotine. À force de comploter, l'ordre mutine, à gagner sans y penser, migraine maligne, pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera. À la guillotine, ok, à la guillotine. De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé et mis tout en ruine. Mais le noble on a gardé de mourir le cou tranché. Par la guillotine, ok, par la guillotine. Par la guillotine, ok, par la guillotine.
Vous venez d'entendre Catherine Ribeiro interpréter La guillotine permanente, une chanson écrite par un anonyme en 1793. La deuxième anecdote, toujours lue dans Paris oublié de Charles Virmètre, est l'histoire d'une erreur judiciaire qui fut réglée par les accusés eux-mêmes. Un jour, une fille, nommée Jeannette, fut trouvée assassinée dans la rue Maubuée. Cet assassinat fit grand bruit. On arrêta deux jeunes gens qui avaient été ses amants à différentes époques. Ils furent écroués au mât de l'honnête. C'étaient les deux frères, deux garçons très honnêtes. Ils étaient très affectés de l'accusation qui pesait sur eux et avaient une peur effroyable de la justice. Ils se réfugiaient dans l'un des coins du préau, fuyant les autres prisonniers, en proie à des appréhensions terribles. Ils attendaient le jour de leur jugement. Le juge d'instruction avait réuni contre eux un ensemble de preuves capables d'effrayer les plus endurcis, bien qu'ils affirmassent énergiquement leur innocence. L'un des jeux les plus en vogue dans les prisons est le Colin Maillard. Seulement, il existe une coutume singulière. Celui qui l'est doit fournir le mouchoir qui lui bande les yeux. La raison est que celui qui prêterait le sien aux autres ne serait pas certain de le retrouver après la partie. On les convia à jouer. Ils acceptèrent. Après avoir joué un certain temps, ce fut au tour d'un des détenus nommé Michel Tâton d'être le patient. Michel tira son mouchoir de sa poche et se l'appliqua sur les yeux. Tout à coup, l'un des deux frères saisit le bras de l'autre. « Regarde, dit-il, c'est le mouchoir de la Jeannette. »« Oui, répondit le frère épouvanté, c'est l'assassin. » Les prisonniers rentrèrent. Aussitôt, les deux frères racontèrent leur découverte au gardien. Celui-ci prévint le directeur de la prison. Michel fut interrogé et finit par convenir qu'il était l'assassin. Il est toujours amusant de constater qu'il était plus facile au XIXe siècle de se faire entendre, et donc ici d'être innocenté, qu'au XXIe siècle où l'on peut vous garder 20 ou 30 ans pour une erreur judiciaire.
Prisonnier de la tour s'est tué ce matin, grand-mère, nous n'irons pas à la messe demain. Il s'est jeté de la tour en me tendant les mains, grand-mère, il m'a semblé que j'avais du chagrin. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça. Prisonnier de la tour était mon seul ami, grand-mère, nous n'irons pas à la messe aujourd'hui. Il était mon seul amour, la raison de ma vie, grand-mère, et ma jeunesse est éteinte avec lui. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça. Prisonnier de la tour, chaque soir m'attendait, grand-mère, nous n'irons plus à la messe jamais. C'est un péché que l'amour et le monde est mal fait. Grand-mère, on a tué mon amant que j'aimais. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça. Prisonnier de la tour n'aura pas de linceul et rien, rien qu'un trou noir où s'engouffrent les feuilles. Mais moi j'irai chaque jour pleurer sous les tilleuls et rien, pas même le roi n'empêchera mon deuil. Si le roi savait ça, Isabelle ne pourrait que pleurer avec moi, car il aimait une belle qui n'était pas pour un roi, et la belle Isabelle, c'était moi.
Vous avez reconnu Édith Piaf qui chantait Le prisonnier de la tour, chanson écrite en 1949 par Francis Blanche. Les témoignages sur Paris sont une source inépuisable d'étonnement et de leçons sur notre société. Malheureusement, en 2025, nous ne pouvons pas, sous peine de menaces, d'amendes, d'emprisonnement et, heureusement, la peine de mort n'existe plus, nous ne pouvons pas, dis-je, parler de ce que l'on veut, critiquer ce que l'on veut. Ainsi, je ne peux rien dire sur les Rothschild, sous peine d'accusation d'antisémitisme. Et c'est regrettable, car en lisant l'enquête que Jules Huret fit en 1897 sur l'un des membres de cette famille, l'on comprend mieux le regard que porte un grand capitaliste sur la question sociale. Une ou deux citations du baron de Rothschild suffiront à vous donner envie de lire cette enquête que vous trouverez sur le site de la BNF Gallica. Dans Rothschild et la question sociale, l'on peut lire ce que le baron pensait de la journée de 8 heures. Je n'y crois pas pour ma part à ce mouvement ouvrier. Je suis sûr que les ouvriers, je parle en général, sont très satisfaits de leur sort, qu'ils ne se plaignent pas du tout et qu'ils ne s'occupent pas de ce qu'on appelle le socialisme. Certes, il y a des meneurs qui tâchent de faire le plus de bruit possible autour de leur personne, mais ces gens-là n'ont aucune prise, aucune influence sur les ouvriers honnêtes, raisonnables et travailleurs, car il faut distinguer entre les bons et les mauvais ouvriers. Ainsi, il est absolument faux, par exemple, que les bons ouvriers demandent la journée de 8 heures. Ceux qui la demandent, ce sont les paresseux et les incapables. Ils se tiennent ce raisonnement. Travailler 10 ou 12 heures par jour, d'abord c'est fatigant. Et puis, il y en a qui sont moins paresseux et plus adroits que nous, qui produisent davantage dans le même espace de temps et qui, par conséquent, gagnent davantage. Tâchons de les forcer à travailler moins. Notre intérêt et notre paresse ne pourront qu'y gagner. C'est bien cela, mais les autres, les pères de famille sérieux et rangés, n'entendent pas du tout qu'on les empêche de travailler le temps qu'ils jugent utile à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Mais quand même, admettons qu'on les force tous à ne travailler que 8 heures. Savez-vous ce qu'ils feront, la majorité? Eh bien, ils iront boire. Ils iront davantage au cabaret, voilà tout. Que voulez-vous qu'ils fassent? Et sur le même ton de mépris, il répond à la question sur l'organisation du travail. à savoir des milliers d'hommes travaillant toute leur vie pour en enrichir un seul, ce partage, s'il n'est pas équitable, si les ouvriers ne se trouvent pas assez payés, n'ont-ils pas la grève ? Ils ont le droit de grève, qui est très légitime, et que personne ne songe à leur retirer, qu'ils s'en servent. Et d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Mais n'est-il pas naturel que celui qui apporte la force première, indispensable, le capital, et en même temps son intelligence, ses facultés d'organisation, d'invention, son savoir et toutes les forces de son cerveau, soit mieux rétribué et ait plus de jouissance, en somme, que l'ouvrier grossier et brutal qui n'apporte à l'œuvre que le concours inintelligent de ses bras. Jules Huret fut un journaliste qui eut l'idée des interviews d'écrivains, mais aussi de capitalistes, d'ouvriers, d'anarchistes, de philosophes, etc. Voici d'ailleurs un extrait d'une enquête qu'il fit auprès d'ouvrières à Roubaix, rue des Longues Haies, rue disparue aujourd'hui, et qui se situait dans le quartier remplacé par MacArthur Glen et les barres d'immeubles voisines. Connaissez-vous cette voix des populations du Nord ? Cette voix traînarde et chantante qui dit toutes les choses avec les mêmes intonations mélancoliques, on dirait bémolisée, et le même rythme lent qui vous berce et vous attriste. Qu'est-ce qu'il fait, le père ? Il est tisserand, il travaille chez messieurs X. Mais je vous dis, ça ne va pas fort, on attend souvent après l'ouvrage. Mais enfin, combien gagne-t-il ? Je ne sais pas, n'est-ce pas ? Mais mettez 15 ou 18 francs, allez, ça sera encore beau s'il les gagnait toutes les semaines. Ah, ils n'ont pas à manger tous les jours. Oh, l'infinie douceur de cette voix résignée, plus déchirante qu'un cri tragique, les lents hochements de tête de cette vieille femme aux cheveux rares et la simple grimace pitoyable qu'elle avait en promenant son regard éteint sur les enfants. « Entrez, monsieur, continua-t-elle, vous pouvez voir, ça n'est pas riche. » C'était une petite pièce de 5 mètres carrés couverte d'un dallage qui s'en allait et qui laissait voir des trous béants sur la terre noire. Pour tout meuble, un minuscule poêle de fonte, 2 ou 3 chaises dépaillées et boiteuses, une table ronde, quelques ustensiles pendus au mur à côté d'images coloriées noires de poussière. Mais où couche-t-on ? Là-haut, dans le galetas ? Montez, puisque la petite a dit que ça ne faisait rien. Je montais les quelques marches d'un escalier à pic qui prenait au fond de la pièce et pénétrait dans le galetas. C'était une chambre de la dimension du rez-de-chaussée où le jour entrait à peine, quoiqu'il fût 3 heures après-midi. Je ne pouvais pas tenir debout. Ma tête cognait le plafond. Il y avait là 3 lits de fer garnis d'un grabat de paille, un pour le père et la mère et les 2 autres pour les 6 enfants. Pas de drap, pas d'oreiller, seulement jeté au hasard sur la paillasse noire, des loques innommables, devant servir de couverture. Rien autre chose dans le galetas. J'étouffais. Je descendis rapidement l'escalier. Dans une cour pareille à l'autre, aussi noire, aussi humide, des femmes sont assises sur le devant des portes. Je m'avance vers un groupe de 3 femmes qui causent silencieusement. L'une pouvait avoir 50 ans. Elle était petite, presque chauve, la gorge nue, la face maigre et pâle, avec de grands creux au milieu des joues. L'autre d'une 30aine d'années, très brune, très rouge, les traits énergiques, presque masculins. Le regard dur, on voyait ses pieds nus à travers les trous de ses chaussures. La 3e, 30 ans aussi, l'air triste, abandonné, en état de grossesse avancée. Quand j'eus entamé la conversation sur le travail dans les usines, et qu'elle m'eut répondu « Oh, ça ne marche pas fort !» Je dis « Tout le monde travaille ici pourtant, c'est donc qu'il y a de l'ouvrage. » Il y a de l'ouvrage 5 jours sur 7, tout au plus. Comptez, ça fait 15 francs par semaine. On ne gagne pas plus de 3 francs par jour. On m'a dit qu'on se faisait une moyenne de 20 à 25 francs par semaine. Il y en a peut-être qui se font ça, des conducteurs, des mécaniciens, mais pas des tisserands. J'ai le mien, moi, qui attend quelquefois des 2 jours après l'ouvrage. Comment voulez-vous qu'il gagne 20 francs par semaine ? Avec 5 enfants ? Voyez s'il y a de quoi faire gras. Ôtez le loyer, 10 ou 15 francs par mois. Et dites s'il ne reste pas juste de quoi mourir de faim.
Rue des Longues Haies, l'inconnu passait. Rue des Longues Haies, l'inconnu passait. Pendant la nuit pleine, il a tissé la laine. Il rentre avec sa peine. Des longues haies, l'inconnu passait. Rue des longues haies, l'inconnu passait. À l'heure matinale, dedans ses abyssales. Mon Dieu, comme il est pâle. Rue des Longuerelles, l'inconnu passait. Rue des Longuerelles, l'inconnu passait. Oh, vous qui cherchez le bon Dieu dans les nuages, vous ne verrez jamais son visage. Oh, vous qui cherchez le bon Dieu dans les nuages, manquerez encore son dernier passage. Rue des Longuerelles, le Seigneur passait. Rue des Longuerelles, le Seigneur passait. Pendant la nuit pleine, il a tissé la laine, il rentre avec sa peine. Rue des Longuerelles, le Seigneur passait. Rue des Longuerelles, le Seigneur passait. À l'heure matinale, dedans ces abyssales, mon Dieu, comme tu es pâle. Rue des Longuerelles, le Seigneur passait. Rue des Longuerelles, le Seigneur passait. Oh, oh, oh.
C'était le père Aimé Duval, l'ami de Georges Brassens, qui l'avait surnommé la calotte chantante et qui l'avait évoqué dans les trompettes de la renommée. Je voudrais revenir sur Jules Huret, mort à 51 ans en 1915. Il était né à Boulogne-sur-Mer d'une famille de pêcheurs. Il s'était installé à Paris en 1885 et après divers emplois, avait été engagé en 1890 comme journaliste dans l'Écho de Paris. L'année suivante, il eut l'idée géniale d'une enquête sur l'évolution littéraire. Il intervieweva 64 écrivains sur l'avenir de la littérature et sur les différentes batailles entre les écoles. À partir de là, il se spécialisa dans les enquêtes, les interviews et les reportages à l'international. Un journaliste comme on n'en fait plus, curieux, intelligent, courageux, novateur, qui nous a laissé des témoignages de personnalités politiques, littéraires, des reportages sur l'Amérique, l'Allemagne, l'Argentine, sur les questions sociales, bref. Une source inépuisable, évidemment oubliée par les pseudo-intellectuels médiatiques, plus intéressés par les enquêtes sur l'invisibilité des femmes dans la rue ou par des reportages sur la toute-puissance du patriarcat dans les objets du quotidien. Mais j'arrête là avec un petit intermède. Voici Matt Cohn qui chante Begin, une reprise de la chanson de 1967.
Hey! a replacement. You're on a runway track from the good. I only painted a picture, telling where we could be. Yeah, like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open for that the call is yours. Keep those on hold, cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm back.
Maintenant, un petit rappel à propos de l'invisibilité des femmes dans la rue. À la fin du 19e siècle, Henri Boutet, mort en 1919 à l'âge de 68 ans, fut un fin observateur et un fervent admirateur des femmes qu'il a dessinées avec tendresse et humour, au point qu'on le surnomma le petit maître du corset ou encore le peintre de la midinette. Il a laissé de nombreux albums et parmi ses ouvrages, Les Petits Mémoires de Paris, publié en 1908-1909 en 6 volumes, est un régal. Le tome 2 pointe les curiosités de Paris, et parmi ces dernières, l'on trouve les petites femmes modernes. Pour le plaisir de constater que les femmes n'étaient pas invisibilisées, comme semblent le déplorer nos néo-féministes, voici ce petit texte. Elles sont légions. On les rencontre partout avec leurs robes d'étoffe mince et leurs grands chapeaux. Le vent des neurasthénies hâle leur peau et étiole leur figure enfarinée. Jeunes, elles ont un masque sans vie sur la figure. Ce sont des poupées qui ne profèrent aucun son. Si elles lisent, il leur faut de la littérature au beurre d'amande ou bien des indécences. Elles rougiraient de monter dans des fiacres. Il n'y a que l'auto pour elles et elles y montent pour dire qu'elles y sont montées. Tous les mots anglais sont à leur disposition et leurs fournisseurs ne peuvent demeurer qu'aux environs de l'étoile. Elles sont désespérément bêtes et quand elles ont un peu d'esprit, c'est encore pire. Elles ne peuvent tourner la tête à cause de leur chapeau. Elles n'osent faire un geste de peur de déranger un pli de leur manteau. Elles n'osent sourire de peur d'écailler les mailles de leur peau. Elles sont en bois et en zinc. Je ne les vois pas du tout sous une tonnelle levant le verre de vin clair de Musette. Elles ne valent ni la blanchisseuse de mon faubourg avec son esprit de gavroche, ni la bourgeoise rablée qui promène ses gosses sur l'avenue, ni la bonne du pharmacien, pas même les pauvresses qui traînent dans les rues. La petite ouvrière de Paris qui regagne chaque soir les quartiers lointains est une reine de féminité qu'elles n'égaleront pas, mais qui, hélas, est appelée bientôt à devenir comme elle. Ce sont des êtres éclos depuis une dizaine d'années sur le pavé de Paris. On ne sait pas d'où elles viennent et elles ne savent pas où elles vont. Elles ne sont pas des femmes puisqu'elles ne peuvent être ni compagnes ni amantes. La fonction crée l'organe et sans doute nos rêveries modernes réclamaient cet être bizarre et sans sexe qui n'a pas de tête et qui les tourne toutes. Si l'on remonte dans le temps, on constatera que les femmes participèrent elles aussi aux horreurs de la Révolution française. Au point que le comité de salut public sous la terreur désavoua ces femelles homicides qu'étaient les poissardes, ces marchandes de la halle, souvent vulgaires, insolentes, hardies, qui couraient les rues, battaient le tambour pour ameuter le peuple et participaient allègrement au massacre. Le 4 octobre 1789, ce furent les femmes qui marchèrent sur Versailles. Madame de la Tour du Pin s'en souvient dans ses mémoires, journal d'une femme de 50 ans. On apprenait qu'une tourbe innombrable d'hommes et beaucoup plus de femmes marchait sur Versailles. L'avant-garde de 300 à 400 femmes commença à arriver et à se répandre dans l'avenue. Beaucoup entrèrent à l'Assemblée et dirent qu'elles étaient venues chercher du pain et emmener les députés à Paris. Un grand nombre d'entre elles, ivres et très fatiguées, s'emparèrent des tribunes et de plusieurs des bancs dans l'intérieur de la salle. C'est alors que 200 à 300 femmes, qui tournaient depuis une heure autour des grilles, découvrirent une petite porte. Elles s'y précipitèrent en foule et, renversant à l'improviste le garde suisse de faction au haut de l'escalier, se répandirent dans la cour. Les femmes qui avaient envahi les ministères, après avoir mangé ce qu'on avait pu leur procurer, dormaient couchées par terre dans les cuisines. Un grand nombre pleurait, disaient qu'on les avait fait marcher de force et qu'elles ne savaient pas pourquoi elles étaient venues. Il paraît que les chefs féminins s'étaient réfugiés dans la salle de l'Assemblée nationale où elles restèrent toute la nuit, pêle-mêle, avec les députés qui se relayaient pour établir la permanence. Il faut savoir qu'à peine un an plus tard, en 1790, le député Villette demanda à ce que toutes les femmes majeures soient admises dans les assemblées primaires. Les femmes formèrent aussi des clubs que Marat protégea pour mieux s'en servir. Le 26 mai 1793, donc nous sommes sous la terreur, un décret leur interdit d'assister à toute assemblée politique. Les poissardes se transformèrent en tricoteuses, applaudissant le sanguinaire Fouquier-Tinville lorsqu'il condamnait à tour de bras les aristocrates, les girondins, les montagnards, les femmes, les hommes, etc. Mais n'oublions pas qu'il y eut aussi les héroïnes de la Révolution, telles que Lucile Desmoulins, Madame Roland, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, qui appela à la création des bataillons d'Amazone française pour défendre la patrie en danger, et qui mourut folle, enfermée à la salle pétrière pendant 24 ans.
Sissina. Imaginez Diane en galant équipage, parcourant les forêts ou battant les alliés, cheveux égorgés au vent, s'enivrant de tapage, superbe et défiant les meilleurs cavaliers. Avez-vous vu Théroigne, amante du carnage, excitant à l'assaut un peuple sans souliers, la joue et l'œil en feu, jouant son personnage et montant sabre au poing les royaux escaliers. Telle la Sissina, mais la douce guerrière, à l'arme charitable autant que meurtrière, son courage affolé de poudre et de tambour, devant les suppliants sait mettre bas les armes, et son cœur, ravagé par la flamme, a toujours, pour qui s'en montre digne, un réservoir de larmes.
C'était Sissina de Charles Baudelaire, poème des fleurs du mal, dit par Yvon Jean. Les femmes invisibilisées. Je me demande pourquoi les néo-féministes ne se penchent pas plus sérieusement sur l'histoire, sur les documents, les témoignages, avant de lancer des études qui sont la plupart du temps un tissu de contradictions, d'approximations et même d'erreurs, ou peut-être même de mensonges. Allons, je m'engage encore dans une voie interdite par le conformisme de notre époque. L'émission se termine. Aussi, je vous laisse avec Édith Piaf chantant « Ça ira » dans le film de Sacha Guitry « Si Versailles m'était compté ». Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.
On va nous accorder du pain. Et qu'ils entretiennent des cadins. La croix sans en qu'on nous écrase. Assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Au son des fibres et des tambours, en nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours.
la 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme. Ça ne pouvait pas durer toujours. D'ailleurs, 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 les gars, les copains, le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons.
Ne restez pas auprès de moi, madame.
Je ne vous laisserai pas seule.
Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Musique.